Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci de nous écouter si vous rentrez de vacances et si c'est votre première journée à l'écoute d'Europe 1, on est ravis que vous soyez fidèles à ce rendez-vous. Nous sommes ensemble, comme l'a dit le monsieur, jusqu'à 11h. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain, c'est une nouvelle rubrique. Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Spécial Koh-Lanta, c'est également une nouvelle rubrique. Vous entendrez ça dans quelques instants. Notre invité culture, ce sera Amélie Nothomb qui sort son nouveau roman très attendu comme à chaque rentrée. Il s'appelle Les Areostas et Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu, très attendu, lui aussi. Et puis dans les indispensables, le jeu vidéo Olivier Tom, testé par Clément Le Saff, et l'exposition de l'école Courtrage-Mais, racontée par Louise Bernard. Notre doublette magique, bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
En face de vous, Bertrand Chameroy, bonjour Bertrand.
Bonjour.
Comme tous les jours, Bertrand, vous nous débriefez un programme télé de la veille, en l'occurrence là c'est le week-end. Qu'avez-vous regardé ?
Vous avez reconnu ?
Non, mais non. Comme je sais que c'est Koh-Lanta,
mais
je
vais dire Koh-Lanta. Ah, quand même, Micheline Dax m'a tout appris. Et oui, Koh-Lanta, dont la nouvelle saison a débuté vendredi. Et nouveauté, ce ne sont plus deux, mais quatre tribus qui s'affrontent. Le nord, le sud, l'est et l'ouest de la France. Enfin, de façon très large. Ayons une pensée émue pour ce candidat affilié à la tribu du nord et qui s'est retrouvé à devoir chanter les corons avec ses coéquipiers alors qu'il vient de Paris.
Ah oui.
24 candidats.
Bah, il était peut-être du nord de Paris.
Oui, peut-être. Oui, mais il était seul sur cette séquence. 24 candidats donc qui ont découvert leurs équipes, la beauté des îles Fidji et le mot célérité.
Qu'est-ce que c'est la célérité ?
La célérité, pas célébrité.
La célérité.
La célérité.
La célérité, c'est...
Oui, c'est le riz.
Ils ont, à mon avis, ils ont oublié MBA.
C'est comme le céleri, voilà, c'est la célérité, c'est la notoriété du céleri. Comme chaque année, la plupart des candidats font plus de sport que je n'en ferai dans toute une vie. Mais parmi eux, Alexandra, elle pratique le tir à l'arc, la musculation, la natation, c'est une véritable battante.
Sur l'île, je vais activer le mode super-héroïne et ça sera ma détermination qui me fera gagner Koh-Lanta.
Qui c'est la meilleure super-héroïne ?
C'est maman.
C'est maman. Oui, sa fille a l'air de moyennement y croire. Et on la comprend. Après seulement une nuit passée sur le camp, Wonder Woman a perdu sa voix et accuse le coup.
J'aime bien mon petit confort la nuit. Dormir à même le sol, entre les insectes. Le ventre vide, c'est dur.
Donc si, non, la battante.
Si je résume, elle n'aime ni avoir faim, ni dormir par terre avec des insectes. Bah, si ce qui l'intéresse, c'est son petit confort et remporter 100 000 euros, elle avait qu'à participer au jeu à prendre ou à laisser, c'est beaucoup moins contraignant. Mais la star, la vraie de ce premier épisode, c'est François. Ce basque au fort tempérament est arrivé sur l'île aussi zen que déterminé.
Je me sens super bien, j'ai un bon ressenti, donc ça ne peut que marcher.
Et voici le même François après 3 jours d'aventure.
Tout ce que j'entreprends, j'y arrive pas. Tout est un échec. Trois jours et je suis au bout du rouleau. Pas possible, c'est pas possible. Après mon fils.
Bon, oh, le pauvre.
Pour sa défense,
il pleure,
oui.
Mais
pour sa défense, François a manqué de sommeil, il n'a pas réussi à ramener de poisson à l'équipe et surtout, il a perdu son maillot de bain sur l'île.
Non.
Oui, la tuile. T'imagines, t'es à 16 000 bornes de chez toi, complètement claqué, en espadrille et en calbut devant la France entière, il y a de quoi pleurer. Hein. Mais Koh-Lanta, c'est aussi des punchlines. Lors du conseil, Marie-France nous a offert une véritable leçon de répartie.
Tu n'as pas éprouvé le besoin de venir me voir, sachant qu'on était concernés toutes les deux.
Mais tu n'es pas venu me voir non plus.
Je suis quand même un peu plus âgée.
Un argument imparable. Marie-France, spécialiste de la répartie, ou plutôt de la repartie, puisqu'elle est rentrée à la maison à l'issue du premier conseil. Ah, elle démarre fort cette nouvelle saison.
Et vous allez la suivre, évidemment.
Ah, évidemment, bien sûr.
Eva, je me tourne vers vous. Avec vous, on a un temps d'avance avec le zapping du lendemain. Vous nous dévoilez quels seront les moments forts sur nos écrans ce soir autour d'un thème. C'est quoi le thème du jour, Eva ?
Les secrets. Les secrets, il n'est point de secret que le temps ne révèle. C'est Racine qui écrivait ça dans Britannicus.
Évidemment.
Et c'est vrai qu'au gré de nos vies, nous taisons
quelle
des vérités.
Et
oui, nous taisons des vérités qui finissent par ressurgir, qui surprennent ou qui blessent. Jean, par exemple, il n'a rien dit de sa double vie à sa femme Catherine, mais les remords sont là et les reproches aussi.
T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien, c'est tout. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es vulgaire, irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça ? Ça change rien. Je pense que depuis que je la connais, j'ai rencontré des filles formidables, j'aurais mieux fait de rester avec elles. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi.
formidable Jean-Yann face à Marlène Jobert en 1972 dans le film autobiographique de Maurice Pialat « Nous ne vieillirons pas ensemble » qui est diffusé sur OCS. Le tournage fut exécrable. Jean-Yann détestait ce personnage et quand il reçut le prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle, le comédien refusa de venir chercher sa récompense. Secret de couple donc, mais aussi secret de sœurs et frères sur France 2 avec la nouvelle série « La Garçonne ». Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon. Louise assiste à un meurtre qui est liée à l'histoire de son père, décédé, une jeune femme intrépide qui décide alors de se métamorphoser physiquement, se transformer en homme, prendre l'identité de son frère pour devenir enquêteur et enquêter, un frère loin d'être convaincu.
Les lois, les procédures, je les ai assez potassées comme ça avec toi, pour ton concours. Je sais tirer, je sais conduire, je change pas devant un cadavre. En plus, à la criminelle, ils t'ont jamais vu. Le seul qui connaissait, c'est Berger. Il est mort.
Ça marchera jamais, ils vont s'apercevoir que t'es une femme.
Bon, pareil. Même toi, tu m'as pas reconnue.
Une série portée par Laura Smet qui a la chance d'incarner un très beau personnage. C'est la principale qualité de cette fiction. Un secret pour mieux comprendre la réalité donc, mais parfois, les dévoiler ces secrets provoquent un bouleversement. Sur France 3, des généalogistes successoraux se lancent, à la demande de notaires, dans des enquêtes afin de trouver des héritiers. Une série documentaire passionnante dans laquelle chaque histoire apporte son lot d'émotions et de révélations. Deux généalogistes, par exemple, tentent de reconstituer un pan entier de la vie de Christiane, une femme qui un jour, à la fin des années 40, disparaît pour refaire sa vie. Elle est alors maman de 3 enfants qu'elle laisse au père. Débute une enquête à la Sherlock Holmes pour savoir si elle a eu d'autres enfants par la suite. Bingo.
Une petite Violetta qui est née en 1958 et Edmond, un fils qui est né en 1962. Ainsi qu'un troisième enfant, regarde, Christophe, qui est né en 66 à Deauville. Ah, c'est une bonne nouvelle.
Une deuxième fratrie, vous m'avez suivie hein, ouais, et découverte. Ouais, ouais. Je dis deuxième parce que, nouvelle révélation.
On n'a pas retrouvé un enfant, on a retrouvé 7 enfants.
Combien ?
7 enfants.
T'as 7 enfants en plus ?
Voilà.
Donc attends, alors ça veut dire, au total, notre défunte, elle a eu 4 de la première union, 7 de la deuxième, 3 de la troisième, donc on a 14 enfants.
Tout à fait.
Oui, 14 enfants, et voilà comment une simple recherche d'héritier permet l'élaboration d'un nouvel arbre généalogique et des retrouvailles entre frères et sœurs ouais. qui vivaient à quelques kilomètres les uns des autres sans connaître le lien qui les unissait. Je récapitule, Secret de couple, c'est dans Nous ne vieillirons pas ensemble sur OCS à 20h40, Secret entre une sœur et son frère sur France 2 à 21h05 et la série La Garçonne, et Secret de famille dans Recherche héritier sur France 3 à 21h05.
Les héritiers vont partager à 14. Ils vont pas avoir beaucoup. Ils sont contents de vous entendre, Maroc. Merci beaucoup, merci Bertrand. À demain tous les deux. Nous on se retrouve dans quelques instants avec notre invitée, la romancière Amélie Nothomb.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Philippe.
Vous êtes romancière, auteur de L'hygiène de l'assassin, encore de Stupeur et tremblement, je ne peux pas tout citer. Prix de Flore pour Nina David Adam, plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En cette rentrée sort votre 29e roman, il s'appelle Les Aérostats. Comme toujours, c'est chez Albin Michel. Vous en êtes à combien de romans écrits désormais ?
Je viens de commencer le 100e.
Parce qu'il faut dire, vous écrivez des romans et vous décidez c'est ou ça. Non de les publier. Pourquoi avez-vous choisi de sortir celui-ci après Soif, roman très remarqué, Goncourt des lycéens, roman Soif dans lequel à la première personne vous mettiez à la place de Jésus sur la croix. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ces aérostats ?
C'est très difficile de succéder à Soif. Je rappelle que Soif, c'est Jésus et la première personne du singulier sur la croix. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je peux publier oui. après ça ?
C'était et ma question.
Ici, c'est tellement différent. C'est un livre à la fois léger et grave. Ça peut être lu comme une pièce de théâtre. C'est très rapide. Je me suis dit, le contraste est tellement grand que ce sera parfait pour Après Soif.
C'est très rapide et c'est peut-être, vous allez nous le dire, peut-être très personnel. Le point de départ de ces aérostats, c'est une étudiante en philologie. Elle a 19 ans. Elle s'appelle Ange. Elle est transparente dans sa fac. Personne ne la remarque. Elle donne des cours particuliers à un jeune garçon. Il a 16 ans. Il est dyslexique. C'est son papa qui demande à cette jeune étudiante de lui donner des cours. Et il s'appelle Pi, comme le pape Pi. C'est un peu vous au même âge, cette étudiante.
Cette étudiante, c'est complètement moi au même âge. À 19 ans, j'étais sérieuse comme un pape. J'avais la vitalité d'un poireau trop cuit. Je passais ma vie à lire. Heureusement que je vivais dans les livres, parce que grâce à ça, il y avait quand même quelque chose. Mais en dehors de la lecture, il n'y avait vraiment pas grand-chose.
Et vous étiez déjà, le contexte est là, vous étiez déjà étudiante en philologie romane à Bruxelles.
Oui, c'est
bien
ça.
Vous dites, à l'université, je n'étais pas très populaire. Les étudiants ne s'apercevaient pas de mon existence. C'était une souffrance.
C'était pire que ça, puisque exactement comme la pauvre Ange, je pensais être transparente jusqu'au jour où, ayant pris la parole au cours, je me suis fait littéralement insulter par tout le monde, exactement de la même façon qu'Ange et pour le même motif.
Vous posez une question, Ange pose une question, elle entend une voix, c'était le plus beau gars de l'amphi qui dit « mais quelle conne !»
Mais quelle conne, mais quelle conne. Et alors là, tout l'amphi qui crie « connasse !» Je vous assure, ça m'a fait beaucoup d'effet.
Comment c'est possible une chose pareille?
Ah, j'en sais rien, c'est comme ça.
Pi, c'est qui? L'enfant de 16 ans, comment vous l'avez composé?
Oh, c'est un patchwork de... Bon, en grande partie de moi, parce que on peut dire que l'Iliade est mon texte fondateur, surtout à cet âge-là. Mais c'est aussi beaucoup d'adolescents que j'ai rencontrés par la suite et à qui j'ai donné divers conseils de lecture et qui ont réagi de façon très, très intéressante.
Ah oui, parce que là... Le papa vous appelle, enfin appelle donc cette étudiante pour soigner ce garçon de la dyslexie. Donc vous dites que c'est une épidémie.
Mais écoutez, je me suis quand même interrogée. Est-il normal que tous les adolescents soient dyslexiques aujourd'hui? Je pense que parmi eux, il y a sans doute 5% qui le sont réellement et les autres sont tout simplement des adolescents qui n'ont jamais eu à lire un livre en entier et qui, pour cette raison, en effet, ne lisent pas bien, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas de raison de lire bien.
Ça m'a rappelé quand j'étais ado, quasiment personne non plus n'était asthmatique. Alors que maintenant, on a l'impression que c'est unanimement partagé. L'asthme et la dyslexie. Vous allez parfois un petit peu fort sur les clichés, parce que les parents font partie de la grande bourgeoisie belge, ce qui fut votre cas, familial. Le jeune homme, le gars qui a 16 ans, qui se fait conduire en classe de première par le chauffeur de son père en Ferrari, vous l'avez inventé.
Alors ça, c'est pas du tout autobiographique, mais... cet enfant va au lycée français de Bruxelles. C'est un endroit assez snob, le lycée français de Bruxelles. Les Bruxellois regardent d'un assez mauvais œil le lycée français de Bruxelles.
Alors, ça parle de l'adolescence. Et vous dites, j'avais de bons parents, ni pervers ni débiles. Ma croissance n'a pas traversé de drame. Ma tragédie n'avait été que l'expérience commune. Aux alentours de 13 ans, en une seconde, cela s'était produit. Tout à coup, dans ma tête, l'enchantement s'était rompu. C'est dans le roman, mais on sent que c'est vous qui parlez. Que s'est-il passé?
Oh, on peut toujours trouver un moment de basculement, mais j'ai l'impression que même sans moment tragique, le simple fait de vivre est un choc suffisant. Je ne connais pas d'adolescence qui se passe bien. Je n'ai jamais rencontré un adolescent qui me dise « pour moi c'est super, c'est trop cool, j'adore ça ». Et pour ça, j'ai l'impression que la littérature, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la littérature a longtemps été mensongère. Jusque environ les années 70, les romans d'adolescence étaient « c'est merveilleux, je grandis, je deviens un homme ou une femme ».
Paul et Virginie sont jeunes, personne n'a d'acné.
C'est ça. Donc c'est assez nouveau que l'adolescence soit montrée pour la véritable tragédie qu'elle est. Et j'insiste, tragédie sans cause. Parce que dans mon cas, je peux vous trouver bien sûr une cause, mais j'ai l'impression que même sans cause, il y aurait eu tragédie.
Et cette cause, vous la direz un jour?
Oh, elle est déjà dite, mais je ne vois pas de raison d'insister.
Dans quelques instants, Hélène Manarino ne va pas insister. Elle va dresser le portrait inattendu d'Amélie Nothomb. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Amélie Nothomb, Les Aérostats, c'est son roman très attendu, comme chaque roman depuis ses débuts, chez Albin Michel, qui vient de sortir. Amélie Nothomb, je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour, bonjour Hélène.
Vous avez un point commun, elle aime bien creuser.
Bonjour Amélie Nothomb, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Amélie Chan, comme on vous a souvent appelé quand vous étiez au Japon, votre rêve c'est de voler. Je vous propose de voler ce matin, de prendre un peu de hauteur pour contempler votre vie. Le temps de vol dure environ 6 minutes. Avant toute chose, Amélie Nothomb, connaissez-vous des Aristide, Gabriel, Jonas?
Non, mais c'est aujourd'hui la Sainte Aristide, la Saint Gabriel et la Saint Jonas, voilà. Donc fêtons-les.
C'est pour ça que je vous dis ça, vous adorez célébrer la fête des gens. Encore plus que les anniversaires, comme vous dites si bien, au moins on n'a pas un an de plus.
Exactement, parce qu'avec les anniversaires, on peut blesser les gens, avec les fêtes, on ne les blesse jamais.
Vous envoyez une lettre d'ailleurs, alors si je vous demande, la Saint-Philippe, c'est quand?
C'est le 3 mai.
Et la Sainte-Hélène?
C'est le 18 août.
C'est ça. Alors c'est un talent. Eh oui. Un talent, autre talent caché, retourner votre pouce à 190 degrés. 180 degrés.
Elle le fait, vous pouvez le voir sur europe1.fr.
Voilà. Alors vous êtes en forme. Puisque vous êtes debout depuis 4h du matin pour écrire, vous avez bu votre thé très très fort et vous êtes sûrement passé à votre maison d'édition puisque vous arrivez avant tout le monde pour récupérer votre courrier. Vous êtes là avant le facteur, l'homme de sécurité, et ça va encore plus loin. Un jour, un auteur a dit « La fille qui distribue le courrier ressemble à Amélie Nothomb. Tout le monde s'est renseigné. » Eh bien, c'était tout simplement vous. Oui, vous distribuez le courrier, c'est Amélie. Drôle. La lettre, c'est sacré. Alors, tout est prêt. Maintenant, nous pouvons décoller. Le voyage commence au cœur de votre enfance, au milieu de vos jeux avec les animaux. On disait que j'étais un âne, enfant solitaire qui aimait se plonger entre deux comptines japonaises, au cœur des encyclopédies sur les oiseaux, dévorer le livre Frou le lièvre une cinquantaine de fois.
Vous êtes même au courant de Frou le lièvre, mon Dieu, le premier livre de ma vie.
Qu'est-ce que c'est Frou le lièvre?
C'est un lièvre qui parle à la première personne du singulier. Je lisais ça quand j'avais 4 ans. Je trouvais que c'était le sommet absolu de la littérature.
Un livre que vous avez perdu, alors j'ai essayé de vous le retrouver. Oh. Il peut être livré chez vous le 23 septembre.
Trop fort.
Oui. Toujours accompagné de votre doudou, un lapin nommé Pitou. Pas de télé.
Oh, je commence à soupçonner une source, parce que ça, sinon, ça c'est trop fort.
Pas de télé, sauf des extraits de dessins animés grâce à la caméra Super 8 de votre maman et surtout l'extrait de film de Jules Verne où le capitaine Nemo était attaqué par le calamar, votre moment préféré. Alors, Amélie Nothomb, solitaire, mais très vite, il y a eu Marie et Roselyne. Vous fabriquiez des tutus pour esquisser 2-3 pas de danse classique et à 13 ans, c'était le rock, notamment lors des balles de la mousson Bangladesh. Beaucoup
c'est
de
génial.
Alors je sais d'où ça vient.
Ah
ça,
non,
je
non,
sais
non.
D'où ça
il y
vient.
Avait le bal de la mousson pour de vrai, parce que votre papa était diplomate.
Le bal de la mousson, et c'est vrai que le bal de la mousson de mes 13 ans au Bangladesh, mais j'ai dansé comme une malade.
Et, oui. Oh là là. Et vos cousins ont même dit Amélie, elle danse comme une casseuse.
C'est
alors,
vrai.
Très rapidement, vous avez rencontré l'écriture une fois que votre sœur avait arrêté de le faire, parce que pas question d'écrire en même temps qu'elle. D'abord les poèmes, comme L'île des lapins.
Oh mon Dieu, Juliette, je te déteste.
Un poème qui existe toujours. Enfant gourmande, oui, le chocolat. Attention, il ne fallait pas vous parler de champignons. Mais surtout, enfant raisonnable, vous ne dépensiez pas votre argent de poche.
Aïe, aïe, aïe,
et
aïe, aïe.
Non, jamais. Et à l'âge de 6 ans, vous avez même interpellé votre sœur sur le retour après une balade dans le village voisin en lui demandant « Mais pourquoi tu dépenses tout? Est-ce vraiment raisonnable ?» La question reste en suspens aujourd'hui. Alors très vite, Amélie Nothomb, vous avez pris votre envol. Une aventurière, à 17 ans, vous partez faire un trekking toute seule dans la jungle en Thaïlande. Eh oui. Et puis il y a eu la fête en Belgique, la guindaille, boire des bières, les renverser sur la tête des autres, dans votre bar fétiche, la mort subite à Bruxelles, puis le festival Burning Man en 2010, dans le désert en Arizona, où tout le monde se déguise. Et aujourd'hui, vous aimez écouter ça.
C'est Rammstein.
Et oui, vous adorez groupe de métal, comme vous dites, c'est trop bien. Alors continuons notre envol. Vous n'avez jamais la tête dans les nuages, tout est très organisé chez vous, vous êtes à l'heure, vous ne perdez rien, vous ne vous plaignez jamais. Votre passion, le vélo, évidemment, pas de téléphone portable, toujours pas de télé, mais vous avez aimé une seule série.
Je te déteste.
Desperate
Housewives. C'est vrai que c'était très très bien.
Votre personnage préféré, quand même, on vous demande.
C'est Brie.
Brie Van de Kamp.
Brie, c'est laquelle? C'est la rousse.
C'est la rousse.
Marcia Cross. Fascinante. Mais oui. Ouais. Vous êtes un collab sur le cinéma. Vous aimez aussi marcher vers le petit presbytère à côté de Notre-Dame, par exemple. Mais surtout dans les cimetières, celui du Père Lachaise et Montparnasse. Et vous avez même choisi la chanson de votre enterrement.
C'est Lateralus de Toul. Mon enterrement sera une cérémonie magnifique. Soyez là.
Attendez, qu'est-ce que ça raconte? J'adore ce soyez là. Qu'est-ce que ça raconte cette chanson?
Ça raconte c'est la vie vécue comme un trip. Un trip vu des côtés, parce que je suis un oiseau, donc moi aussi j'ai une vue latérale. Et c'est la découverte des couleurs.
Alors, pas question d'être triste. D'ailleurs, vous avez un rire très communicatif, un vol paisible. Cet été, vous avez nagé, cueilli des myrtilles avec votre petite robe noire, robe fétiche des vacances. Et oui, alors Amélie Nothomb, personnalité discrète, certes, qui ne s'arrête jamais, parfois un peu nostalgique, mais que l'on soit en haut ou en bas, vous restez un très beau voyage.
À part les gens à qui vous allez faire leur fête,
Vous êtes touchée par ce portrait ?
Je suis très touchée. Merci Juliette. Maintenant, ils savent tout. Maintenant.
C'est le but de ce portrait, Nathan.
On sait tous le vous.
Merci beaucoup Hélène. À demain.
À demain.
À suivre dans Culture Média, l'expo de l'école Courtrage-Mé avec notre premier indispensable, c'est Louise Bernard qui le porte. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Amélie Nothomb, romancière qui publie Les Aérostats, c'est chez Albin Michel, comme toujours, à chaque fois. Il est question, dans ce livre, de littérature. Il y a une mise en abîme de votre vie, de l'existence. Il y a deux personnages qui sont un petit peu vous, Amélie Nothomb. Il y a cette jeune femme de 19 ans qui était vous quand vous étudiez la philologie à Bruxelles et qui s'appelle Ange. Et puis il y a ce garçon pique et dyslexique. Et le soigne par la lecture des grands classiques. C'est une fable. Vous n'y croyez pas ? Où est-ce que vous pensez ?
J'y crois complètement. Vraiment, je suggère à tous les jeunes et à tous les moins jeunes, non seulement cette prescription littéraire, mais de recommander à d'autres cette même prescription littéraire.
Mais parfois, ça nous tombe des mains. Le Stendhal en première, ça tombe des mains. Alors, le Rouge et le Noir ou la Chartreuse, waouh !
Je suis tout à fait d'accord que Stendhal, c'est mieux après 20 ans. Mais par contre, ce que vit Pille avec Homère, moi je l'ai vécu à 15 ans. Bon, à 15 ans, j'allais super mal, j'étais épouvantablement maigre et j'étais anorexique au dernier degré, ça n'allait pas du tout. À 15 ans, je décide de retraduire l'Iliade en me disant mon cerveau est en train de se faire la malle, tout ce que je peux faire c'est retraduire l'Iliade, ça va marcher.
Retraduire en partant d'où ?
Du texte grec.
D'accord.
Non, mais et déjà... je vous assure que ça a été une expérience, mais sans précédent. J'ai découvert ce que c'est que de trembler d'admiration devant un texte. Quand on traduit un texte, surtout à partir d'une langue aussi extraordinaire que le grec ancien, je vous assure qu'on a affaire au génie lui-même. Et ça m'a fait... Ça m'a pas guéri, parce que vous voyez que je suis toujours dans un état très particulier, mais ça m'a tellement fasciné qu'on puisse écrire quelque chose d'aussi fort que par la suite, je me suis dit, tant qu'il existera de très grands livres, je veux absolument continuer à vivre.
Je souris parce que j'adore cette règle universelle. Il faut déjà être un personnage en soi extraordinaire, ce que vous êtes, Amélie Nothomb, parce qu'il faut déjà parler le grec ancien à l'âge de 15 ans.
Bon, je faisais du grec pour l'école, hein, puis voilà, c'est tout. Il y en a encore quelques-uns qui font du grec au lycée.
Quelques-uns, comme vous dites. Louise Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait du grec à l'école à 15 ans ?
Non, j'ai fait latin, moi.
Ben, moi aussi, j'ai fait latin.
Il y avait deux équipes, il y avait grec et latin. J'étais de l'équipe latin.
Moi aussi, pareil, j'étais de l'équipe latin. Louise Bernard, tout à fait autre chose. Vous nous conseillez ce matin une expo événement. Ça s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien ». On voit bien la référence. C'est en lien avec le film culte, car c'est la phrase culte de ce film, « La haine » de Mathieu Kassovitz.
C'était le 31 mai 1995, Vincent Cassel alias Vince, dans sa salle de bain, face à son miroir, regard caméra.
C'est à moi que tu parles, hein ? Oh, 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 c'est à moi que tu parles, mec, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain ! C'est à moi que tu parles comme ça, mec !
25 ans plus tard, le film n'a pas pris une ride, contrairement à Vincent Cassel. Et pour l'occasion, l'exposition « Jusqu'ici, tout va bien » propose une réflexion autour du long métrage et surtout autour de la vie des jeunes de banlieue.
Alors c'est quoi ce programme ? Qui est à l'origine de l'exposition ?
En fait, les œuvres ont été réalisées par les élèves de l'école de cinéma et d'art Courtrage-Mé, qui est située à Montfermeil, en banlieue parisienne, fondée par Lajli, un nom qu'on connaît bien, le réalisateur des Misérables. Et ces élèves sont partis d'une question... Qu'est-ce qui vous fout la haine aujourd'hui ? Réponse en sculpture, installation, peinture, photographie, court-métrage, une vingtaine d'œuvres, toutes créées en 2 mois seulement, spécialement pour l'exposition, ce qui semble beaucoup plaire à Mathieu Kassovitz, réalisateur de La Haine et co-commissaire de l'exposition.
C'est assez jouissif de voir les autres travailler sur des bases de votre travail à vous qui date d'un quart de siècle. Non, c'est très intéressant de voir comment eux interprètent les choses. Beaucoup d'œuvres raconte la façon dont la haine serait exprimée aujourd'hui, si elle est exprimée aujourd'hui, et sur leur génération à eux et sur leur connaissance à eux de leur monde. Donc c'est assez touchant pour moi de voir comment ce film a été était une référence à l'époque pour leur permettre aujourd'hui d'exprimer ce qu'est leur banlieue aujourd'hui, quoi.
Ça peut faire peur ce genre d'expo, comme ce sont des élèves. Est-ce que c'est pas un peu amateur, Louise ?
Non, pas du tout. En fait, c'est à la hauteur du lieu exigeant qui les accueille, le Palais de Tokyo à Paris. On se retrouve face à des œuvres intelligentes, politiques, sensibles. Il y a par exemple la création d'Émilie Pria dans le film La Haine, Vince, qui est joué par Vincent Cassel. Il partage sa chambre avec Sarah, sa sœur, mais on ne la connaît pas. Elle fait une vague apparition. On ne voit surtout jamais sa chambre. Et cette jeune artiste a décidé d'imaginer à quoi elle pourrait ressembler. Et elle l'a même installée au Palais de Tokyo. Donc il y a un lit, un bureau, des posters vintage au mur, des VHS et une Game Boy qui traînent. On s'y croirait. C'est vraiment une manière pour elle de questionner la place de la femme dans les banlieues, dans la société même, et leur invisibilité qui est particulièrement frappante dans le film.
D'autres exemples ?
Oui, il y a des photos très réussies de Tatiana Haïtara. Elle reprend des scènes du quotidien dans les cités qu'on peut voir dans La Haine, qu'elle actualise pour mieux correspondre aux pratiques ou aux codes de la banlieue d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a réellement changé en 25 ans ? C'est assez brillant. Et ce qui revient le plus dans les œuvres, c'est le rapport à la police. Écoutez un autre co-commissaire de l'exposition, J.R., c'est l'artiste au chapeau et lunettes de soleil, connu pour ses impressionnants collages photographiques. Il dirige la section art de l'école.
Quand on voit l'expo, il y a aussi beaucoup de violence qui est exprimée. Mais on sent que cette violence les brûle, qu'il y a quelque chose qui est très présent, qui les brusque dans leur quotidien. On sent qu'il y a cette tension qui est là, qui est palpable, qu'on sait tous, qu'on retrouve dans leurs œuvres. Cette expo, c'est ça en fait. C'est on regarde à travers leur prisme. Moi, je découvre, je redécouvre les quartiers, je redécouvre à travers le prisme de ces jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. C'est ça qui est fascinant.
Exposition fascinante, c'est le mot, hein, qui dure très peu de temps, c'est bien dommage. Jusqu'ici, tout va bien, c'est au Palais de Tokyo, à Paris, et vous avez jusqu'à lundi prochain pour vous y précipiter.
Il faut profiter des expositions ouvertes en ces temps de Covid. Merci beaucoup, Louise Bernard, à très vite. Ça vous a intéressé, j'ai entendu Amélie Nothomb.
Bah, La Haine, c'est vraiment l'un des nouveaux classiques. J'avais adoré ce film et je trouve qu'il ne vieillit pas. Je comprends qu'il fasse réagir des adolescents. J'irai certainement voir l'expo au Palais de Tokyo.
Qu'est-ce qui vous fout, La Haine ?
Le mépris. Je suis allergique au mépris. Et je trouve qu'il trouve des visages de plus en plus insidieux. Une forme de mépris, c'est par exemple de dire « Mais oui, mais nous, dans notre génération, on pouvait lire des livres intelligents, mais la nouvelle génération ne peut pas lire les classiques parce qu'ils ne sont pas capables. » Ça, je trouve que c'est une forme de mépris absolument répugnante.
Il y a beaucoup de professeurs et de parents qui le disent, et de jeunes, hélas. Dans un instant, on va parler jeux vidéo avec notre deuxième indispensable, Clément Desaffe. Pas de mépris pour les jeux vidéo, mais d'abord musique avec le tout nouveau Francis Cabrel, Te ressembler. Un titre qui annonce un nouvel album. Il va s'appeler cet album À l'aube revenant, joli titre, le 16 octobre.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Amélie Nothomb, on va passer du Japon au manga, des mangas aux jeux vidéo. Vous avez vu le raccourci, c'est à la fois un raccourci et un grand écart. Bonjour Clément Desaffe.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Car votre jeu vidéo du jour sent bon la nostalgie.
Oui, la nostalgie et l'enfance, hein, pour tous ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90 comme moi. Les quelques notes que je m'apprête à lancer devraient faire rejaillir des souvenirs. La course pour rentrer de l'école, les devoirs faits en quatrième vitesse, le goûter devant la télé, tout ça pourquoi ? Eh bien pour ça.
Une passe, un crochet.
Olive et Tom, c'est un dessin animé que regardaient les jeunes, parce qu'on n'est pas la même génération que les moins. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils font des actions absolument incroyables. Et quand dans un match de foot, c'est trop facile, on dit « Oh putain, c'est devenu Olive et Tom ».
Exactement, c'est très bien résumé. Et donc Olive et Tom a droit à une nouvelle adaptation en jeu vidéo. Ça se passe sur la PS4, la Switch et sur PC. Son nom, c'est Captain Tsubasa Rise of New Champions. Alors Captain Tsubasa, c'est le nom d'origine du manga qui a lui-même donné naissance au dessin animé. Sauf que quand ce dessin animé est arrivé en France, eh bien, on l'a francisé. C'était l'époque où c'était du Club Dorothée, on francisait tout à l'époque.
Je savais
et
pas
c'est donc
ça.
Devenu Olive et Tom. On a changé les noms. Alors on rappelle l'histoire, celle de l'ascension fulgurante d'Olivier Hatton, alias donc Tsubasa Ozora en version originale. C'est un garçon de 14 ans, prodige du football. Il commence par jouer des matchs entre collèges où il se fait des amis et des rivaux, jusqu'à ce qu'il soit sélectionné sous les couleurs du Japon pour un tournoi junior. Bref, une belle histoire.
Olivier Tom, c'est d'abord le foot, donc c'est un jeu de foot comme FIFA ?
Alors c'est bien un jeu de foot, mais rien à voir avec FIFA. C'est ce qu'on appelle un jeu arcade, hein, à l'opposé d'une simulation. C'est donc plus fun que réaliste. Déjà, on a affaire à du foot qui est très simplifié. Il y a une touche pour passer, une pour frapper, une pour tacler, une pour dribbler. Ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est donc plus en fait une question de timing que de technique. Il faut appuyer au bon moment sur la bonne touche pour réussir son dribble ou son tacle. Mais c'est surtout un jeu totalement fantaisiste, puisque l'objectif, ouais, c'est d'arriver à exécuter les fameux mouvements spéciaux dont vous parliez, Philippe.
Bien sûr.
Ceux qui ont fait la renommée d'Olivier Tom, la catapulte infernale, le tir de l'aigle ou encore le tir du tigre qui propulse le ballon et le gardien adverse au passage au fond des filets. À chaque fois, on a le droit à une animation, c'est très très nostalgique et voilà ce que ça donne en tout.
Là, on est dans le japonais.
J'adore.
Hein ?
J'adore.
Et là, on sent que ça y va fort. Hein.
C'est ça.
C'est autre chose qu'un petit but.
Ouais,
hein.
Faudra imaginer si Cristiano Ronaldo faisait comme ça chaque fois qu'il tirait. Ce serait quand même autre chose, le foot.
Tout le jeu est comme ça ?
Tout le jeu est comme ça. Hormis les menus en français, tout est en japonais sous-titré. Donc on est vraiment dans l'ambiance originale du manga. Musique épique, dramatisation à l'extrême. Et vous l'avez entendu, commentateur japonais extatique. Clairement, le jeu ne fait pas dans la demi-mesure.
J'adore ce ton martial pour parler de football.
Vous comprenez ce qu'ils disent ou pas ?
Non, quand c'est un homme, c'est beaucoup plus compliqué.
Amélie Nothomb préfère que ce soit les femmes qui parlent japonais. Voilà, elles articulent mieux.
Malheureusement, dans Olive et Tom, c'est un peu ce qui manque des femmes. Il n'y en a pas beaucoup. C'était vraiment un dessin animé pour garçons avec beaucoup de garçons dedans. Et moi, j'étais comme un gamin, il faut le dire, un manette en main en jouant à ce jeu. Et alors, l'attention ultime, c'est quand même que les développeurs, grâce à quelques astuces visuelles bien pensées, ils ont même réussi à donner la sensation que le terrain fait des kilomètres de long, exactement comme dans le dessin animé. Vous savez, il fallait 4 épisodes pour traverser le terrain et marquer un but.
Mais exactement comme quand tu joues au foot. Moi, j'ai commencé à 8 ans. Le terrain, il faisait un kilomètre de long.
C'est
quand on a 8 ans. Et bah, c'est pour ça, pour le coup, c'est réaliste.
C'était vraiment voilà, cette marque de fabrique du dessin animé qui a marqué toute une génération. Et bien là, ils l'ont reproduit. Et puis, autour de ça, il y a quand même un contenu qui est vraiment pensé pour les fans, puisqu'il y a un mode aventure qui permet de revivre les moments forts de l'histoire d'Olive et Tom. C'est hyper sympa. On peut même créer son propre personnage pour devenir une star dans cet univers. Je suis pas certain que ça plaise à tout le monde parce que c'est parfois un peu technique. Il faut quand même aimer ça. Il y a pas mal de défauts aussi dans ce jeu. Mais je vous invite à aller lire déjà le test complet sur Europe1.fr. Et si vous êtes fan, comme moi, d'Olive et Tom, bien foncez, vous ne le regretterez pas.
Je sais pas pourquoi, je préfère les sons en japonais qu'en français.
Oh oui, c'est beaucoup mieux en japonais.
Mais ce qui est dingue, c'est que le particularisme devient universel. Comment vous expliquez que ça plaise à ce point, que ça fascine à ce point cette culture japonaise-là ?
C'est un mystère. Je m'y connais très peu en manga, mais je constate qu'en effet, c'est mondial et je ne sais pas pourquoi.
C'est mondial et c'est même très français. C'est très français les mangas. On est le deuxième pays consommateur au monde derrière le Japon. Preuve que les Français aiment ça et les dessins animés aussi ont le même succès du coup.
Ambiance franco-japonaise. Clément Le Saffre, merci beaucoup. À très vite. Amélie Nothomb, vous restez avec nous. À tout de suite, on marque une pause.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie d'Amélie Nothomb qui publie Les Aérostats, c'est chez Albin Michel. Dans ce roman, il y a un personnage assez extraordinaire dont on n'a pas encore parlé. C'est la maman du jeune homme. Elle explique qu'elle est collectionneuse. Elle fait une courte apparition. Elle est collectionneuse. Elle a une quarantaine d'années. Elle collectionne des tasses, des vases, des bols, des faïences. Mais elle a une manière très particulière de collectionner.
Elle collectionne des objets qui n'existent pas et dont elle trouve les photos sur Internet. Elle collectionne les photos. Elle considère que posséder ces photos sur Internet est une collection suffisante. Donc c'est une collection qui n'est pas réelle.
Et je me dis, mais c'est complètement barré. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous voulez voir la collection. Elle dit, mais non, je ne les ai pas.
Oui, c'est ça. Et elle trouve même excentrique que le personnage puisse vouloir voir la collection.
Mais les tasses existent pour de vrai. Et vous connaissez des gens comme ça ? Est-ce que ça existe ou est-ce que vous l'avez inventé ?
Non, ça existe. J'ai découvert ça avec effarement. Donc moi qui suis bêtement analogique, j'ai découvert des gens qui sont complètement dans l'autre dimension. Il n'y a plus aucun rapport avec le réel.
Sauf que ce qu'il y a de réel, c'est qu'elle passe des journées sur Internet pour trouver ces choses qui existent quelque part, mais pas pour elle.
Oui.
Mais c'est presque un personnage de roman.
Oh oui, vous avez raison, elle mériterait un roman elle aussi.
Quel rapport vous entretenez avec la critique littéraire ?
Je l'écoute sans état d'âme. Je ne dis pas que je m'en fiche, mais je n'en tiens aucun compte. Leur métier est de lire les livres, et bien c'est un métier respectable.
Et vous lisez les critiques qui vous concernent ou pas du tout ?
Je les lis, mais vite fait.
Je vous demande ça parce que vous écrivez, et c'est dans le roman évidemment, avec l'édition L'Iliade et l'Odyssée. J'ai appris grâce à vous que ce fut le premier roman qui a été écrit, alors qu'autrefois c'était des aèdes, des troubadours qui chantaient, qui le rapportaient, c'était une tradition orale. Avec l'édition L'Iliade et l'Odyssée est née la critique littéraire, écrivez-vous. En Grèce, il s'est trouvé un critique, Zoïle, pour déclarer qu'Homère écrivait comme un tâcheron. Eh bien, écrivez-vous, le public s'est emparé de Zoïle et il l'a pendu.
C'est génial.
Justement, c'est ma
question.
Génial. Est-ce qu'il y a des critiques que vous voudriez pendre et lesquelles ?
Non, je ne dis pas que je n'ai pas eu quelques critiques qui m'ont, pour le coup, lâché.
Pour vous, pour d'autres, ou pour des gens que vous aimez, dont vous aimez le travail et qui se sont fait éreinter, démolir, défoncer.
Il m'est arrivé d'être vraiment indignée par certaines critiques que j'ai entendues sur certaines personnes ou sur certains cinéastes parfois. Mais de là à dire que je voudrais les pendre, Non, je pense que finalement, la peine la plus cruelle, c'est justement de les laisser vivre.
Moi, j'ai dit pendre parce que c'est dans votre livre.
Voilà, mais je trouve génial, c'est génial, ces Grecs antiques qui ont pendu Zoïle parce qu'il avait osé dire que Homère écrivait comme un tâcheron.
Vous aimez bien... Oh non, je voulais parler de musique, parce que quand même, c'est assez puissant. Vous avez une discussion sur vos goûts musicaux, enfin, entre la prof et son élève. Ils ont 3 ans d'écart, mais parfois, il y a une grosse différence.
Oui.
Et l'élève, il a 16 ans, il écoute Infected Mushroom. Alors, je traduis ça.
Génial.
Champignon infecté. Et alors, on écoute le titre que vous citez.
Génial. Non, c'est Infected Mushroom.
Ça, c'est Infected Mushroom.
Ouais.
Mais vous écoutez ça chez vous ?
J'adore, c'est magnifique. C'est de la transe israélienne, on n'a jamais rien fait d'aussi bien. Hein.
Et vous l'écoutez à quel moment ?
Ah bah surtout pas en écrivant.
C'était ça ma question. C'est un cliché si je dis que c'est de musique d'ado ?
C'est un cliché, c'est pas vrai. C'est de la musique extrêmement travaillée. Bienvenue aux adolescents bien sûr, mais même les pas du tout adolescents comme moi, j'adore ça.
Et vous l'écoutez comment, au casque, à fond ?
Non, quand je fais le ménage, ça donne beaucoup d'énergie pour faire le ménage.
Autre référence dans le roman, c'est Skrillex. Moi, je connaissais pas Skrillex, vous allez me dire qui c'est. Le titre, c'est Ease My Mind, on écoute. Qui est ce DJ ? Parce que c'est un DJ.
Alors c'est un DJ qui doit avoir 26 ans maintenant et qui lui, à lui seul, fait tous les sons. Les voix de femmes, les voix d'hommes, il pêche ça je sais pas où. C'est extrêmement beau. Et ça, en prenant un bain glacé en période de canicule, c'est formidable.
Comment vous avez découvert cette musique ?
J'ai des lecteurs qui me cultivent, c'est très bien.
Ils vous écrivent, vous envoient des MP3 et...
Voilà, et puis grâce à ça, j'en sais un peu plus et ils ont généralement très bon goût.
Et vous faites référence à vos goûts, vous faites souvent des références, des
oui,
auto-références.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, vous faites référence dans ce roman à vos romans précédents, on est page 102, on apprend qu'Ange s'appelle Ange car ses parents voulaient un prénom épicène.
Oui.
Qui était le titre d'un précédent roman.
En effet.
Juste pour ceux qui ne savent pas, déjà les gens ne savent pas ce que veut dire célérité, c'est quoi un prénom épicène ?
C'est un prénom qui convient aux deux sexes.
Comme Camille.
Comme Camille.
Dominique, Ange. Et vous avez fait remarquer une fois que Champagne, c'est épicène.
Absolument, parce qu'il y a la champagne et le champagne. Bon, je suis plus sensible à le champagne, mais sans la champagne, il n'y aurait pas de champagne.
Un peu moins joyeux, on peut dire le Covid ou la Covid. Parce que
oui,
c'est un mot neutre.
J'ai entendu les deux, oui.
La Covid, c'est la maladie,
oui.
Et le Covid, c'est le virus, et j'en parle. C'est pour ça qu'on peut dire « la » et « le » sans se tromper.
D'accord.
J'en parle parce que vous avez perdu votre papa dès les premiers jours du confinement. Je n'en parlerai pas avec vous si vous n'aviez pas écrit une lettre ouverte à son intention. Pourquoi cette lettre ouverte ?
J'aimais énormément mon père qui était un type formidable. Il est mort au premier jour du confinement et je suis sûre qu'il a choisi ce moment pour mourir parce que...
Vous dites qu'il a choisi ?
Il a choisi parce que, bon, il était malade, il avait le cancer, mais moi je m'attendais à ce qu'il vive encore longtemps. Mais il détestait tellement cette idée de confinement. La veille encore, je l'avais au téléphone, il disait non mais le confinement, mais c'est pas possible, je veux pas connaître ça. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il meure le lendemain.
Et pourquoi il voulait pas connaître ça ?
Parce que c'est...
C'était quoi l'argument ?
Il aimait trop sortir. Pour lui, c'était inenvisageable de rester chez soi comme ça tout le temps.
Et quand vous lui disiez que c'était pour la santé, la sécurité...
Oh, il disait, écoute, j'ai été otage en Afrique pendant 4 mois. Si on m'avait dit après que je ne pourrais plus sortir de chez moi pour une raison de maladie, je n'aurais jamais accepté.
Ouais, et vous-même, comment vous vivez le confinement ?
Bah, moi, je l'ai respecté, hein, mais c'est vrai que c'était...
Non, mais bien ou mal ?
C'était pas fameux.
Et le masque ?
Et le masque, je le porte.
C'est vrai, je l'ai vu, vous êtes arrivé dans ce studio avec le masque. Merci beaucoup Amélie Nothomb, je rappelle le roman Les Aérostats. C'est non masqué, mais quand même c'est crypté, c'est codé parfois. C'est chez Albin Michel et c'est une merveille. Et ça parle également non seulement de livres, mais de littérature et de littérature dans la littérature. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous on se retrouve à 9h pour Culture Média avec Marc Feuillet, qui est le directeur général du groupe Figaro. Les quotidiens également font leur rentrée, il va nous raconter pourquoi et comment. Et je sais qu'il est ravi de nous annoncer les bons chiffres qui sont apparus. Et puis Olivia Ruiz, mais non pas pour un nouvel album, mais pour son premier roman. Ça s'appelle La commode au tiroir de couleurs. Et si je me souviens bien, il y avait une chanson qui ressemblait à ça. On va en parler. Juste après le flash, on va retrouver Anne Romanoff pour Ça fait du bien et son équipe. Je vous dis à demain. Merci encore Amélie Nothomb.
Merci Philippe.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.